Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices et chers lecteurs et lectrices. Vous écoutez Un livre sur le zinc en direct dans notre studio, l'émission littéraire de 48FM en collaboration avec la librairie La Livrerie et la médiathèque départementale de la Lozère. Le thème de ce soir se résume en une phrase. On va vous présenter des livres qui parlent des livres. Et oui, la fameuse mise en abîme qui, je vous arrête tout de suite, ne veut pas dire un pari effectué dans une grotte. Non, non, on parle bien d'œuvres qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, représentent ou parlent d'œuvres similaires. Quelques exemples, dans le roman « Les faux monnayeurs » d'André Gide, on peut lire le journal d'Edouard, un livre dans le livre, bim, mise en abîme, dans la pub, le logo de la vache. On commence déjà à me déconcentrer, alors que c'est un très bon exemple. Dans la pub, le logo de la vache qui rit, avec ses boucles d'oreilles, elle représente elle-même le logo, bim.
Mise en abîme.
Voilà, il y en a qui suivent.
Merci.
Et moi, ma référence à moi, c'est Platane, la série télévisée réalisée avec Eric Judor, qui joue son propre rôle. Un Eric Judor qui essaye de réaliser son premier long métrage, La Môme 2.0 Next Generation. Re-re-bim.
Dans l'abîme.
Mise en abîme, voilà. Bref, pour en parler et surtout chroniquer leurs livres lus et sélectionnés autour de la table, au studio, nos quatre expertes. Salut Pauline, comment tu vas ?
Ça va très bien, merci.
Elodie également, bonjour, j'espère que tu vas bien.
Mais super aussi.
À côté de moi, Marlène, salut.
Salut.
Et puis Valérie qui vient d'arriver, salut, pour clore ce quatuor de choc, tu nous as ramené aussi pas mal de choses.
Oui, j'ai ramené des ivres qui parlent de livres et ils sont tous autour de la table. Non, je viens de meubler parce que... Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'est dans mon sac.
Mais on va commencer avec un peu d'histoire et j'ai une question pour vous, un peu d'histoire. J'ai fait quelques recherches et l'expression « mise en abîme » viendrait vraisemblablement de l'héraldique. Qu'est-ce que c'est l'héraldique, mes invités ?
Les blasons. Les blasons.
La science des armoiries. Voilà.
Ça remonte loin, au Moyen-Âge, les chevaliers.
Car,
les royautés, quoi.
Car dans l'héraldique, une abîme représente un blason à l'intérieur même d'un blason. Mmh. Et là, normalement, vu que vous êtes assez cultivé, vous allez me dire... Ben oui, bien sûr, comme les armoiries royales du Royaume-Uni de 1816 à 1837.
Ben oui, bien sûr, comme les armoiries royales en Angleterre de 1807 à 1800. Je ne suis pas été très forte en date.
C'est exactement ça. Mais voilà, vous le saviez toutes, voilà, c'est ça. Mais avant ça, Elodie, je vais donner la parole, tu vas commencer. Mais avant ça, juste deux petites infos. Vous l'avez entendu à ma voix, je ne suis pas Ludovic Terrol.
Oh,
le présentateur star a laissé sa place à l'humble chroniqueur que j'étais avant. Ludo, on pense à toi, là d'où tu es, c'est-à-dire dans le froid, en train d'enregistrer des bruits d'entraînement de football, ce qui était terrible parce que pour une fois, il avait lu un livre en lien avec
ça,
le thème.
Pire. Ludo, si tu nous écoutes, on te laisse la wild card pour parler de ton livre la prochaine fois.
Et la dernière petite chose, c'est un mea culpa. On va commencer par ça. Dans l'émission du mois dernier, notre cher présentateur vedette avait confondu Hermine de Clermont-Tonnerre avec Adélaïde, une cousine éloignée, soit une candidate à la ferme célébrité avec la nouvelle prix Renaudot. Une petite erreur qui avait conduit un guiproquo, voire une petite brouille. Au sein de l'équipe de rédaction,
je rappelle juste qu'Elodie ne m'adresse plus la parole depuis sa chronique.
Alors, au nom de 48FM, je tiens à demander pardon à Elodie,
surtout à Adélaïde, quoi.
Dont sa chronique de l'excellent livre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, avait été perturbée. Désolée, Elodie.
Bah écoute, non mais c'est tout pardonné et je suis contente pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre qu'elle ait été récompensée sur ce livre qui était quand même pas mal.
Tu t'es visionnaire.
Mais oui.
Revenons à nos moutons et le thème du jour, les livres qui parlent des livres. Et tiens, justement, pour me faire pardonner, on commence avec toi, Élodie. Tu veux nous parler d'un livre et justement mise en abîme puisqu'une bibliothécaire va nous parler de bibliothécaire.
Oui, de la revanche des bibliothécaires de Tom Gold. Alors du coup, j'avais envie... En plus, il y a une très bonne ambiance sur le plateau aujourd'hui. Donc du coup, j'en profite pour parler d'un petit livre qui est très drôle. Alors Tom Gold, vous le connaissez très certainement, puisque normalement, on le retrouve dans les pages du Guardian, on le retrouve dans le New Yorker, dans le New York Times. D'habitude, il fait des strips très courts. Et là, donc, on a un petit recueil que j'ai trouvé très, très chouette, qui vient de sortir, et qui nous parle de la revanche des bibliothécaires. Alors... En tant que bibliothécaire, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que c'est plus la revanche des éditeurs et des auteurs. Ça parle surtout du travail des auteurs, mais c'est quand même très chouette. C'est un humour toujours caustique, un peu subtil, qui se lit de façon... on n'est pas obligé de le lire de... Voilà, on peut prendre n'importe quelle page au hasard. Je vous en ai imprimé quelques-unes. Et alors, il y a une page qui m'a particulièrement inspirée aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais contente de commencer. Il a inventé donc un petit dé à critiquer les livres.
Oh, génial. Quand
on ne sait pas comment les critiquer. Donc du coup, je les ai fabriqués.
Wow.
Je vous ai fabriqué donc des petits livres, donc vous avez trois petits cubes. Si vous ne savez plus quoi dire sur vos chroniques, vous n'avez plus qu'à lancer le dé sur le livre et on verra bien ce que ça donnera. Donc tout au long de l'émission, je vous invite, tenez, je vous les distribue.
Tu peux nous faire un petit exemple ?
Alors par exemple, alors je ne sais pas si j'ai le dé ou on a aimé le livre, pour le coup, alors au hasard, pur hasard, je lance le dé. Et donc, qu'est-ce que je devrais dire sur ce livre ? Un rythme parfait, assez rapide pour éviter l'ennui, assez lent pour savourer, comme une bonne série, sans les pubs.
Ouais.
Voilà. Donc il y en a, des fois c'est un peu cinglant, des fois ça fracasse un peu.
Alors finalement, je vais peut-être chroniquer le livre comme tu m'avais obligé de le faire de Clermont-Tonnerre.
Ouais,
finalement, je vais le faire avec les dés.
Donc je vous conseille ce petit livre qui est très très chouette. Je vous ai fait des petites photocopies parce que franchement, je l'aime tellement que je crois que je vais en afficher, placarder ma bibliothèque avec, parce que franchement, il y a des trucs super sympas. Donc voilà, je vous laisse les regarder. C'est mes préférés que j'ai photocopiés.
C'est son recueil le plus connu à Tom Gold. Enfin, moi, je sais, je les ai tous.
Je ne sais pas si c'est le plus connu. Tiens, celui-là, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Je te laisse le lire. Le conseil d'une bibliothécaire en période de Noël ou d'une libraire en période de Noël, qu'est-ce qu'elle va dire sur un livre à son client?
Alors la libraire ou bibliothécaire, enfin la personne, la passeuse de livres, dit à son client « Si c'est pour un cadeau, je suggère notre édition spéciale du temps des fêtes. C'est la même histoire sombre d'un flic alcoolique qui résout des meurtres d'une violence inouïe, mais dans une reliure festive rouge et or. Je suis, mais 8000%, je sais que ça n'existe pas, d'accord avec ça.
Voilà, c'est ça.
Confère la réédition de La femme de ménage à un grand format, jaspage, couverture cartonnée, collector, absolument bling bling, à 25 euros.
Voilà, du rouge, du vert,
qui est exactement la même histoire que celui, un livre de poche à 8 ans.
Donc je vous conseille ces petites histoires, c'est super sympa. Et voilà, c'était juste pour l'introduction.
Oui, Tom Gold, qui est, donc, tu l'as dit, dessinateur, illustrateur écossais. Il a été deux fois la section officielle du Festival d'Angoulême. Et avec La revanche des bibliothécaires, il a même décroché en 2023 le prix Eisner de la meilleure publication humoristique, titre qu'il avait déjà obtenu avec un autre ouvrage en 2018.
Voilà.
Il vient de sortir un excellent La physique pour les chats, qui est assez hilarant, puisque je crois qu'on avait fait une fois une émission sur les chats.
Alors, je me souviens d'un titre sur les chats il y a un mois.
Mais c'est Livre moche. Mais ouais. Là, celui-là, c'est le même format, parce que c'est toujours des formats un peu horizontaux, un peu longs,
oui,
assez, assez
italien.
Sympa. Et là, voilà, c'est dans la même série, c'est toujours très très drôle, et il y a toujours un petit humour noir quand même dans le fond.
Ah oui.
Continue avec qui ? Allez, à qui le tour, Marlène ?
Ah ben, si tu veux.
Avec le roman maudit de Franck.
Ah ben, t'as bien fait. Il est trop bien. Non, moi d'abord.
Je ferai ma réclamation après.
Ouais, c'est ça.
Après.
Si tu dis pas la vérité, je
dis pas la vérité. Mais je dirai pas la vérité, non, je vais pas dire. Ouais, alors, quelle originalité. Donc,
c'est pas la vérité, presque la vérité.
Presque la vérité. Le roman maudit. Alors, en fait, c'est un ouvrage qui se découpe comme un calendrier sur 25 jours. ben, comme le calendrier de l'Avent, forcément. Voilà, sauf que, ben, en fait, quand on le commence, ben, on triche. C'est obligé.
Non, c'est pas obligé.
Si, c'est obligé. Voilà, alors, non, vraiment, c'est sympa. Déjà, moi, j'adore Tilliez à la base. Donc, j'adore ses romans, voilà, ce polar, tout ça. Là,
là, on est plus sur du roman jeunesse, ado, que,
oui.
Que adulte.
Oui, oui. Mais une histoire, mais assez hallucinante. Donc, en fait, on jongle avec le texte d'un livre entre un journal et l'histoire d'un héros. Donc, il y a double histoire dans l'histoire. Donc, en fait, on a Naël, un héros qui découvre par hasard un carnet, un livre carnet. Et qui va comprendre au fur et à mesure qu'en fait, un certain Léo Lacan a été kidnappé un an plus tôt. Et à chaque fois qu'on ouvre, en fait, alors, la partie qui concerne le carnet du kidnappé, il se dit, ben, je vais essayer de l'aider, enfin voilà, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, etc. Et en parallèle, donc, le héros qui a découvert ce carnet, en fait, il va lui arriver tout un tas d'aventures parce qu'il se retrouve coincé la même journée, le 1er décembre, donc le premier jour où on ouvre le carnet. Mmh. Et en fait, à chaque fois, on revient à cette date-là, toujours à la même heure.
Il revit la même
chose.
C'est un jour sans fin.
Sauf ouais. Pendant ce jour sans fin, il va se dire, ben, c'est génial. Alors au début, il se dit, super, comme c'est un ado, je vais faire la fête, je vais essayer d'embrasser la meuf que j'arrive pas à choper. Donc vu que je peux revivre ma journée tout le temps, je vais essayer de l'attraper autrement. Enfin voilà. Bah oui.
Quelle
finesse. Oui, bah, c'est des ados. Après, du coup, il se dit, ah mais non, du coup, il démonte la baraque. Hein. Mais comme à chaque fois, à la même heure, une fois qu'il s'endort, paf, ça revient, tout est clean de nouveau et on le réveille toujours à la même heure, bon, il se dit, super, quoi. Donc après avoir fait plein de bêtises, tout ça, il se dit, bon, comment je peux sortir de ma situation, parce qu'il se rend bien compte quand même qu'il est coincé dans cette espèce d'espace-temps voilà, qui se répète. Et donc il se dit, peut-être si je fais le bien autour de moi, ça ira bien. Et donc là, il commence à enchaîner des bonnes actions. Bon, bonnes actions, je lis des trucs dans le journal, je sauve des gens, enfin voilà. Donc ça, on a cette histoire-là qui est assez géniale, et en même temps, dans le journal, comment je peux sauver le jeune qui a été kidnappé. Je comprends qu'il a été kidnappé par une espèce de force du mal, un monstre qui est aussi dessiné dans le journal, voilà, avec tout un côté plus sombre sur cette partie-là. Et comme c'est les polars, hein, puisque Tilliez, il est connu pour ça, ben en fait, on a un suspense tout le temps, parce qu'on se dit, mais oui, effectivement, il se passe quelque chose, et puis, en fait, je peux absolument pas vous dire plus que ça.
Oui, parce que là, on arrive à Noël, quand même, avec l'histoire.
Voilà. Donc, il y a une chose que je vais rajouter, c'est que chaque jour où il revit la scène, par contre, quand il lui arrive quelque chose, si jamais il est marqué physiquement, donc par exemple,
une griffure,
un coup, ça reste sur lui. Donc, les séquelles physiques sont conservées, d'accord ? Et lui, il se scarifie chaque jour le bras pour être sûr de la date réelle, hein, puisqu'il a l'impression que, voilà, quand il a compris, il se fait une scarification pour chaque jour sur son bras. Voilà. Et j'en dirai pas plus parce que sinon je vais complètement.
Les gens qui ont acheté ce livre et qui l'ont pas encore offert ou pas encore ouvert, merci d'oublier ce que venez d'entendre. Parce que ce que Marlène n'a pas bien précisé, c'est quand même que normalement, elle aurait dû attendre le 1er décembre pour ouvrir le premier chapitre.
J'ai commencé le 1er novembre et je l'ai fini.
Bah après, ce qu'il faut préciser, d'avance. C'est qu'il est très richement illustré.
Il est génial.
Super. Ouais. Il y a des extraits de journal, il y a plein de choses.
Et l'écriture, bon, après, voilà, quand on connaît, on sait, c'est fluide, c'est sympa, c'est vraiment haletant. Donc, on se dit, ouais, vraiment, il se passe des choses. Et il y a toujours des rebondissements, toujours. Et même là où on ne s'y attend pas, quoi. C'est fabuleux. C'est pour ça que non, j'en dis pas tant que ça. Voilà. Ouais, mais après, on ne peut pas tenir. Vraiment, on ne peut pas tenir. C'est impossible. Impossible.
Et puis tant mieux, parce que sinon on n'aurait pas eu de chronique si tu avais attendu.
Elle aurait mis un wildcard en janvier.
Mais non. Non mais lisez-le, franchement, offrez-le, lisez-le, allez à la librairie, achetez-le pour vos enfants, vos ados.
Mais attendez le 1er décembre pour l'ouvrir.
Ah mais super. Moi je pense que je vais le faire pour mon fils, parce que vraiment super, quoi.
Tu vas le recoller du coup.
Non, mais j'ai...
Et c'est un beau livre aux éditions
Ozou,
c'est ça.
Qui font plein de petits livres comme ça pour l'avant, pour enfants, pour grands, pour ados, en BD, en roman.
Et Franck Tilliez, qui est un peu une star un peu de ce type de roman polar, Il a aussi écrit des séries télé. Mais en regardant la page Wikipédia, il a été accusé de plagiat.
Quoi ?
Par une autrice québécoise, si je ne dis pas de bêtises.
Je n'ai pas suivi ça. Je sais qu'il a eu des prix pour le polar, mais après, je n'ai pas suivi. Voilà.
Bon, on va se renseigner mieux, alors.
Tu avais une réclamation, Valérie.
Non, c'était, mais j'avais peur qu'elle... oui, c'était le fait qu'elle l'ouvre et qu'elle en parle, alors que moi, je tanne tous les gens qui l'ont acheté
à peu près, pas, quoi. C'est... Je me suis arrêtée à peu près à un tiers de ce que je vous ai raconté. Parce qu'après, ça part tellement...
Non, mais c'est
en suspense que c'est pas possible, je peux pas vous dire la suite. Quoi.
Ah, tiens Valérie, à toi, qu'est-ce que tu nous présentes ?
Ce que vous voulez.
Bah allez, je te laisse.
Oui, parce que j'ai oublié de t'envoyer la liste de ce dont j'allais parler.
On a l'habitude,
Une fois n'est pas coutume. un peu par hasard, parce que c'était un livre donc, qui a eu beaucoup de couverture médiatique. C'est l'énigme de Turnglass. Est-ce que ça vous parle, ce petit livre ? En fait, c'est un livre qui commence... Ben je donne à Marlène, vas-y, commence ce livre. Ah, mais non, il est à l'endroit. Oh non, il est à l'envers. Donc, en fait, voilà, ben, Turnglass, la glace qui tourne, Turnglass, sablier, bim, voilà, c'est un livre, donc on peut lire dans les deux sens.
Et ça, c'est le nombre de pages que tu as lu ?
Oui, c'est ça, les quatre premières. Non, c'est que j'ai refermé le livre. Donc, je vais essayer de vous présenter ce livre en ayant lu que 4 pages. Non, en plus,
il y en a qui arrivent très bien.
Oui, là, je vais rien raconter de plus, je vais que meubler. Non, en fait, c'est assez chouette parce que ça rend hommage... Ah oui, attends, donne-moi le dé pour chroniquer le livre. Ça rend hommage un peu à des formats anciens de livres. Alors, je pensais que c'était très moderne de faire des livres à double sens parce qu'il y en avait un que j'avais adoré, un new romance qui s'appelait Dans le noir, je suis à toi. Et je pensais que c'était moderne. L'édition du Rouergue en faisait pas mal pour la jeunesse. Mais en fait, non, c'est ancien. C'est apparemment, jadis, on faisait pas mal de livres comme ça qui se lisaient tête bêche, sablier. Enfin, voilà. Et donc, je trouvais ça déjà sympa. Mais me diriez-vous, mais quel lien, bon sang, avec le livre dans le livre ?
Ah oui.
Doucement, Elodie Gérald, nous y venons. Arrêtez d'être impatiente comme ça. T'étais trop sage. Et donc, on est dans un livre, en fait, il y en a une première partie qui se passe en 1881 et une deuxième partie qui se passe en 1939. J'ai commencé par celle de 1939, un peu par hasard. Voilà, donc c'est la partie verte, là où il n'y a que 4 pages.
Il n'y a pas d'ordre ? Il ne faut pas lire d'abord le...
Mais j'ai hésité pendant une heure, comme je suis incapable de prendre des décisions, j'ai jeté le livre, il est tombé comme ça, j'ai commencé comme ça. Donc, du coup, là, on est sur une ambiance très Gatsby le Magnifique, dans les États-Unis, un peu sympa. Et on a un jeune qui s'appelle Ken Korean, qui va à Hollywood, qui arrive de Géorgie, peut-être, je ne sais même plus, enfin, d'un pays des États-Unis plutôt rural, qui cherche désespérément à avoir des rôles, des choses comme ça. Et là, Elodie s'impatiente, elle dit « Mais quand est-ce qu'elle parle de livres ?»
Mais oui, mais quand ?
Et il se retrouve embarqué dans une fête un peu mondaine sur une plage et il fait la connaissance d'Oliver Took. Oliver, rappelez-vous ce prénom. Donc, c'est un écrivain qui est très, très célèbre. Sauf que, ben, exactement comme Franck Tillyès, il rentrait dans la salle physiquement, peut-être on ne le reconnaîtrait pas. Notre jeune futur acteur ne reconnaît pas Oliver Took. Et ils deviennent un peu amis. Sauf que, ben, très vite, cet Oliver va montrer le livre qu'il vient d'écrire à son ami, et c'est un livre qui peut se lire dans les deux sens. Ah,
et bim,
l'histoire n'est pas l'autre.
Attends, je vais y venir. Je vais y venir. Là, on est dans 1939, ambiance Gatsby. Et donc, il lui dit, j'ai écrit ce livre. Il a un petit salon d'écriture sur une sorte de petite île à quelques brasses de la côte où tout le monde est en train de faire la fête. Et un soir, Oliver est retrouvé mort. S'est-il suicidé ? La réponse se trouve-t-elle dans ce livre tête bêche ? C'est ce que pense Ken Korean. Et donc, il dérobe le livre et se met à le lire. Et là, effectivement, en lisant ce livre, il se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs entre ce livre qui se lit tête bêche, ce livre à deux entrées, et l'histoire d'Oliver qui vit dans une grande maison de glace dans laquelle il y a une grande cage en verre à l'intérieur. Voilà, et je ne peux pas aller plus loin parce que sinon je vais faire comme Marlène tout à l'heure avec le Tillyès, je vais trop en dire.
C'est ça.
Donc je ne vais pas en dire plus sur 1939. Et là je me suis dit, mince, j'aurais dû commencer par 1880, puisqu'il y a quand même la chronologie, ça existe. Les mecs, ils se sont amusés à faire des frises depuis la préhistoire, ce n'est pas pour rien. Bon, mais j'attaque 1881, un peu les bras ballants, en me disant ça va rien m'apprendre. Et là, bim, je comprends rien. On rencontre des nouveaux personnages. On est sur une île de l'Angleterre isolée. Puis je me dis, mais attends, mais à un moment donné, là, en 1939, ils ont été sur une île un peu isolée. Et donc, en 1881, ben, on retrouve un vieux manuscrit, un manuscrit qui, lui aussi, à son tour, se lit. Tête bêche. Ah. Et là, incroyable. Et on repart dans une histoire. Et ce qui est assez fou, alors, c'est pas le Goncourt, l'écriture, elle n'est pas extraordinaire. C'est un livre qui tient en haleine pour le fond et pas pour la forme. Ben, jusqu'au bout, en fait, on se dit que dans n'importe quel sens où on l'est pris,
ça marche.
Ah, c'est qui est fort. C'est le livre dans le livre. C'est-à-dire qu'on a un livre déjà qui est un objet un peu sympa. On aurait pu en parler la fois où on parlait
des
livres-objets. Ouais. Mais là, on a aussi le livre dans le livre, donc le mise en abîme.
Bim.
Qui est du coup deux fois, puisqu'on en a un dans chacune des histoires. Et ça se tient très très bien, et je vous garantis qu'on va beaucoup plus loin que la page 4 du côté vert. Non, c'est vraiment vraiment bien. Ouais.
Je pense que je vais le lire, mais je vais commencer par le côté rouge. Du coup.
Alors je t'ai peut-être dit la mauvaise couleur parce que je suis albinos. oui, non, j'ai commencé par le côté rouge. Le côté rouge, c'est le côté moderne, commence par le côté vert.
Ah, il faut commencer par le côté vert.
Peu,
okay.
Peu importe, mais.
Ah, ça va être sympa, ouais.
Et c'est vrai que quand tu arrives au milieu, tu te dis qu'est-ce que l'autre côté va pouvoir m'apprendre vu ce qui s'est passé. Et de nouveau, il y a une histoire de livre dans le livre et ça marche, ça tient en haleine. C'est vraiment
extra.
Bien.
Ah, c'est
c'était passionnant.
Est-ce que ça aurait aussi marché si tu avais, je sais pas, lu 20 pages d'un côté, de l'autre,
J'ai songé à le faire, mais je pense que je serais passée à côté de pas mal de petits détails. Des fois, ça tient à un petit médaillon. J'ai songé à le faire quand j'étais. Je pense aux deux tiers de la partie moderne. Je me suis dit, flûte, zut, j'aurais dû faire. Mais je pense que c'est vraiment fait.
Ça va marcher dans tous les cas.
Ouais. J'avais peur d'être déçue, en fait, arriver à ce moment où je me suis dit, j'aurais dû faire ça. Je me suis dit, ça va être potache, zut, j'aurais jamais dû le commander. Et en fait, non, ça marche. Ça marche très, très bien, même. Le livre dans le livre, une belle mise en œuvre.
Une belle mise en abîme, il y en aura encore d'autres. On continue avec toi, Pauline. Alors, j'ai noté, tu veux commencer par quoi
Eh bien, je vais commencer par la petite gardienne Nemo, comme ça parle pas du tout de livre.
Ah, mais t'as une wildcard, là
on va dire que j'ai une wildcard, mais c'est par hasard, parce qu'en fait, ça ne parle pas de livre, ça parle de mots. Alors, bon.
Après, dans les livres, il y a des mots.
Bah voilà, dans les livres, il y a des mots. Franchement, je vais en parler parce que c'est un joli livre. Mmh. C'est un très, très, très joli livre. Et je le disais hors micro, mais j'ai pas dit l'auteur.
Priscilla Durand.
Ouais, la petite gardienne des mots de Priscilla Durand chez ETT Dépendance.
Alors, moi, je l'ai fait. C'est les éditions Territoire Témoin.
Ouais. Donc, je ne sais pas, c'est un petit éditeur local de je ne sais pas quelle région. Elle est d'Épinal, donc est-ce qu'elle
c'est un truc elle est, du point alors, je peux faire un petit point.
Fais un petit point, ouais.
Elle est effectivement, elle a vécu vit dans les Vosges, toujours. Et c'est vrai que dans sa biographie, on apprend qu'elle a vécu dans un HLM. Elle a fait des études supérieures au CROUS. Voilà, donc elle revendique aussi le fait de venir d'une famille modeste. Et elle est encore jeune, elle a 35 ans, donc c'est jeune autrice. C'est son deuxième roman.
Ah bah alors c'est marrant, tu me dis qu'elle a 35 ans, qu'elle a grandi dans un HLM, donc j'imagine que son personnage principal, la petite Nell, elle est un peu inspirée d'elle-même. Et c'est une des choses qui m'a touchée dans ce roman, c'est que donc moi je suis née en 86, je pense qu'elle a du coup elle n'est pas très longtemps après. Et donc cette petite Nell, elle grandit dans une cité HLM dans les années 90. Et quand on a grandi dans les années 90 et qu'on voit sa sœur qui lit Star Club, qu'elle regarde Princesse Sarah à la télé, que déjà, hop, ça fait un petit chose. Il y a un petit côté sympa, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans notre enfance. En fait, tout le début du livre, c'est très, très, très simple. Elle raconte sa vie de tous les jours et puis... cette petite fille, elle parle beaucoup des mots qu'on jette, des mots qu'on attrape, des mots avec lesquels on joue à la récré. Au début, on se dit, mais elle se trompe dans le vocabulaire. On va comprendre petit à petit que c'est pas des mots, mais autre chose. Et en fait, non, ce sont des mots, des vrais mots. On est dans un univers où on peut bah, voilà, jouer avec les mots, les jeter par la fenêtre, les mettre dans une petite boîte pour s'en souvenir. C'est très, très joli. Et c'est complètement ancré dans une réalité totalement comme la nôtre, mais avec un vrai talent, c'est qu'à aucun moment on se dit que c'est anormal. Quand on comprend que cette petite fille, elle n'a pas un souci de vocabulaire, on se dit bah, c'est très très beau. Voilà. Et donc cette petite fille, elle a un papa qui est routier, qui a des mots très durs en lui, qui n'est pas violent, qui n'est pas. Mais il a beaucoup de mots qui très très durs qui s'échappent de lui même sans qu'il les contrôle. Et donc elle essaye bah, d'être toujours très mignonne, très gentille, très douce, très bonne à l'école, pour pas que tous ces vilains mots sortent le peu de week-end où il est là. Et un jour, ce papa va trouver un nouveau travail, c'est qu'il va travailler au quai des mots, là où les wagons de mots viennent être livrés. Et donc, c'est un travail merveilleux, mais qui finalement va peut-être l'éloigner un peu de ses filles et va nous faire rentrer dans une histoire un peu toute nouvelle où notre petite Nell va se transformer en un genre d'Alice au Pays des Merveilles qui va découvrir un monde complètement nouveau. Ça paraît un peu farfelu quand je le raconte comme ça, mais c'est très très fluide en fait. Et c'est... Le mot parfait, je trouve que c'est joli. Ça donne du poids au mot, ça donne de la douceur au mot, de l'importance au mot. Si ça parle pas de livres, ça parle de tout ce que les livres font dans nos têtes. Et voilà, et elle image Priscilla Durand vachement tous les mots qui vivent autour de nous. Quand on lit, évidemment, mais quand on parle, quand on a un visage fermé, ouvert, et c'est très, 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 très beau. Il me semble être passé un petit peu inaperçu, bien qu'il ait été soutenu par le CNL. Oui. Et il n'aurait pas dû passer inaperçu, parce que c'est un très, très joli livre que je conseille à tout le monde pour sa douceur, pour sa beauté. C'est
un peu poétique, quoi.
Oui, c'est pas poétique dans l'écriture, c'est poétique dans l'histoire, parce que c'est, je vous dis, très terre à terre au début. Hein, je veux dire, quand on parle de Star Club et de sa sœur qui se planque pour fumer, ça fait pas rêver. Mais voilà, c'est cette idée des mots. Moi, j'aime beaucoup l'idée des mots enfermés dans une boîte. Je trouve ça tellement mignon. Elle ouvre sa boîte et elle retrouve ses petits mots. Puis moi, à un moment, elle va ouvrir la boîte de son papa, où là, il y a des mots un peu moins jolis, un peu moins... C'est très joli, très très beau.
Tu le conseillerais à partir de quel âge? Quelque chose que tu peux conseiller à tes collégiens?
C'est un peu difficile, je pense, pour un collégien ou alors un très bon lecteur. Ça s'adresse aux adultes. Ça s'adresse aux adultes, ouais.
Ok.
Pourtant, la lecture, quand t'en parles, ça fait très, très doux, justement.
Oui, c'est très, oui, y a une très très grande douceur.
Bah merci beaucoup, Pauline. Et ça fait déjà bien une demi-heure que nous parlons, donc c'est déjà l'heure de la pause musicale. Et pour rester dans le thème de notre émission, on va s'écouter une mise en abîme musicale, abîme, une chanson qui parle d'une chanson. Tout de suite, Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
C'était la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg sur 48FM. Et oui, même quand Ludovic Terrol n'est pas là, on est obligé de mettre du Serge Gainsbourg, c'est dans le contrat. Une chanson que l'on pourrait qualifier de mise en abîme, car justement c'est le thème de notre émission littéraire, un livre sur le zinc consacré aux livres qui parlent des livres. On est toujours avec Pauline, Marlène, Élodie et Valérie. Prochaine présentation... Qui veut y aller, je sais. Élodie est occupée, on peut trouver quelqu'un d'autre.
C'est rapide, allez, moi, si tu veux.
Allez, si tu veux, Marlène.
Allez. Moi, j'ai une série. J'ai trois livres dans les mains. Le livre qu'il ne voulait pas être lu, le livre qu'il ne voulait vraiment pas être lu, et le livre qu'il ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas être lu.
Et tu les as lus?
Oui.
Ah, tu écoutes jamais les consignes.
Ils sont beaux, ces livres. Ils sont très, très géniaux. Très beaux. Alors là aussi, voilà. Petite pépite humoristique. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste... parce qu'à expliquer, ça va être compliqué, parce que c'est vraiment sur la typographie, le graphisme, les dessins, les illustrations. Ce qu'il y a, c'est ce qui fait vraiment le charme. Mais je vais juste essayer de lire un petit passage pour que vous compreniez. En fait, donc, le livre ne veut pas être lu et donne bien entendu les consignes de dire... que même si l'enfant veut qu'on lui lise une histoire, en gros, l'adulte ne doit pas le faire. Et donc, à un moment donné, il y a un petit passage qui m'a fait rire, parce que du coup, ça devient saugrenu. Donc déjà, la typo est complètement décalée, l'écriture est en bas de page, complètement pas de page, puis de l'autre côté, complètement en haut, bref. Donc là, il y a une espèce de petit avertissement. La grande personne se dit qu'elle aurait préféré lire un livre ordinaire avec des mots ordinaires, un livre qui voulait bien être lu. Puisque là, on dit « De nouveaux mots firent leur apparition dans le livre, des mots que personne n'avait jamais entendus auparavant. Il devint soudain très difficile de fire le livre. Il y avait par exemple un crapaud qui fantait des darfouilles vraiment, oui, des darfouilles. Jamais la grande personne n'avait vu livre aussi saugrenu. La grande personne jeta un coup d'œil à l'enfant pour voir s'il s'était endormi. Non, bon, il n'y avait plus qu'à poursuivre la lecture. » Quand le chien eut azalé les troquettes, ils voulurent slouper de la monfiture. Ils eurent de la monfiture plein la fleurbe, s'aglufficotèrent et s'embarbouillèrent, abracadabrouflurgitouf patapouf, pif pif youpla, galip frit tout plat.
C'est encore plus d'accord dur que le prince
de mots. Moi, ça m'a fait penser au prince de mots tordu, mais,
voilà.
Mais en plus poussé.
Mais alors en plus poussé, et alors on va vraiment très très loin. Et là, on a même le livre qui dit à la grande personne, mais attention, le livre, il va faire comme un oiseau. Donc, on peut très bien, en tant qu'adulte, réellement
faire l'oiseau
exécuter les consignes qui sont interdites normalement, donc j'adore faire tout l'inverse. Là il y a une loupe, alors il faut lire, et puis je suis désolée, mais alors même si je suis pas encore presbyte, la dernière ligne il faut y arriver, parce que je pense qu'elle fait un demi-micro de centimètre.
Voilà. Le tourne pas vers moi, c'est voilà. Bon. J'ai pas mes lunettes.
Bref, c'est super, on le tient dans tous les sens, on le tire, on le pousse, on se met à chanter, je vais éviter, c'est assez hallucinant. Il y a même un petit moment où le livre commence à disparaître, donc on n'a que la moitié des écritures. Et chaque livre va comme ça faire la même chose. Mmh. Alors, forcément, plus on monte en intensité, plus le livre te dit non, mais celui-là, il veut vraiment pas, ou celui-là, il y a. Et plus c'est encore plus farfelu, et c'est dans tous les sens, et c'est assez hallucinant.
C'est
et
un gros travail graphique. Hein.
Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire. Attends, il y a une qualité.
Je te le donne.
C'est hyper esthétique.
Hallucinant. Et là, je lis juste chaque dernier livre sur la couverture, après que tout soit fini, après les mentions et d'édition, etc. Il y a un petit encart. Donc là, sur le premier, c'est une fois l'enfant endormi, la grande personne cacha le livre pour que l'enfant ne le retrouve pas le lendemain soir. Voilà. Et sur l'autre, c'est au cas... Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné, mais vas-y Valérie.
Moi, j'ai le dernier, donc la même introduction. Une bonne solution. La venive nous le diva.
Voilà.
Donc, couvave. Et ça, c'est parce que les R ont été volés, voilà. Je viens de le lire.
La nuit, une fois l'enfant endormi, la grande personne cacha le livre pour que l'enfant ne le trouve pas. Le soir suivant, on feu fave bien si ça maf... Bon fou,
ah
bon
couffage,
bon couffage. Voilà.
Moi, j'étais en train de lire le tien. Il y avait une très belle photo. Il y a une hortensia magnifique dessinée. C'est un peu le trait du tempographe pour ceux qui connaissent. Il y a marqué « Quelle fleur magnifique !» s'exclama la grande personne. Sachant que le titre de mon livre, c'est le livre qui ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas être lu. Donc, il fait tout pour qu'on ne le lise pas. Il y a une très belle photo de fleur qui donne envie. Et c'est écrit « Humé ici ». Et la grande personne obéit. C'est alors que, clac, le livre lui pinça le nez. Et calmos, monsieur le bouquin, on ne pince pas, gronda la grande personne.
Voilà. Et c'est extra à lire, un
enfant. Il était sous champi,
c'est
vraiment
génial.
Oui, mais c'est bien, comme quoi, les champis, c'est bien. C'est
ça. Assez hallucinant, voilà.
Avec parcimonie, on rappelle, nous sommes...
Les cèpes.
Les cèpes, oui, quand même. Même. Je pense trop de cèpes, c'est pas bon. Et donc, c'est avis de Sundin, un Suédois. Il fait plein de trucs. Il est comédien, acteur, scénariste, animateur de télévision, mais aussi donc auteur pour enfants. Et donc, son premier album jeunesse, Le Livre qui ne voulait pas être lu, paru en 2020, a été un véritable succès en Suède. Il est devenu le livre le plus vendu cette année-là pour les enfants. Il a eu l'award du livre de l'année jeunesse. Ça montre aussi son humour, mais il y a un vrai travail de traduction.
C'est génial.
C'est qu'il est vice-champion de jeux de mots en Suède.
Ah. Oh, génial.
Ok, ça explique alors.
Et pour le coup, je vous en fais un.
Allez, vas-y.
Allez. Un suédois.
Erdutreut Nayagarmet.
Stro Offenstru.
Je sais pas si on a les mêmes références.
Moi, je vais, ouais.
Qui voulait dire « Tu es fatigué ?» Non, je suis repassé. Drôle d'humour, voilà. J'ai pas
j'adore. Dire,
c'est sûrement plus drôle en vrai.
Il peut être lessivé, d'après.
C'est assez hallucinant. Mais c'est pas étonnant du coup ce que tu dis. C'est voilà. Vraiment, on le retrouve. Vous le voyez bien, vous, en 3 secondes. Donc là, le livre, ça parle pas forcément d'un livre, mais c'est le livre qui devient lui-même le jeu, quoi.
Il est un peu maléfique, ce livre.
Ah ouais, mais il est génial.
On va passer d'un livre pour enfants à un livre un peu différent, un livre de recettes.
Pas du tout, mais oui, on peut en parler.
En tout cas, il y aura un lien avec un livre de recettes nazies.
Je te vois arriver, ouais.
D'un coup, ça donne envie de le lire.
Donc, c'est mon tour.
T'as dit des recettes nazies ?
Oui.
Alors, non. Ah oui, alors.
Ah oui, alors là,
oui et non,
les curieux.
Alors, je vais donc vous parler du livre d'Alice. Donc, titre, complément de titre, « Ou comment les nazis ont volé le livre de cuisine de ma grand-mère ».
Ah,
voilà. D'accord. Donc, c'est un livre signé Karina Urbach, qui est plus une historienne.
Urbach,
si on le dit à la germanique.
Beaucoup trop
et donc,
germanophile sur ces...
Ouais,
voilà, on est au moins deux.
J'aurais dit Urbach aussi.
voilà, bon. Alors, on va le dire comme ici. Donc, Urbach, qui est plus une historienne qu'une auteure. Et qui raconte, donc on est à la fois sur une sorte d'enquête journalistique et historique et une histoire de famille, puisqu'elle va enquêter sur sa propre famille. Elle va nous raconter le livre d'Alice, qui est, enfin, l'histoire d'Alice, qui est sa grand-mère. Donc on est... alors c'est un livre qui est assez exigeant. Hein. On est, y a un tiers de l'ouvrage sur les 400 pages qui est consacré aux notes historiques et aux références historiques du bouquin. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que la couverture, elle est assez girly. Oui. Et alors, enfin, pas du tout. Donc, on est sur l'histoire d'une famille juive. Alice, c'est une femme qui perd son mari assez tôt. Elle a une trentaine d'années, un mariage pas très satisfaisant. Et elle se rend compte que son mari a joué tout l'argent du ménage et toute sa dot. Elle venait d'une famille un peu bourgeoise, toute sa dot au jeu. Et elle se retrouve veuve avec deux enfants. Et il va falloir qu'elle survive. Pour survivre, elle va commencer à faire de la cuisine pour sa sœur, qui, elle, a un peu plus d'argent, qui a fait un bon mariage. Et elle va se mettre à cuisiner pour des bourgeoises. Donc tout se passe à Vienne dans les années... on est dans l'entre-deux-guerres. Et on a déjà un passif. On sait que les Juifs risquent... Enfin, voilà. Ils vivent toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et elle va commencer à faire fortune, Alice, en faisant de la cuisine chez les particuliers. Puis après, elle va monter une école de cuisine. Tout part d'un moment où il y a des tripots et des clubs de jeux. Et pour que les gens ne soient pas obligés de s'arrêter pendant qu'ils jouent, elle va créer des mini-bouchées, des mini-sandwichs, des choses comme ça, et c'est ce qui va faire son succès. Elle va faire fortune et elle va se mettre à faire une école de cuisine, apprendre des recettes viennoises. Alors moi je le savais pas, mais apparemment donc il y a vraiment une vraie réputation de la cuisine viennoise, donc je connaissais pas trop, donc c'est pas un livre de recettes du tout, hein, vous trouverez pas de recettes dedans. Elle va commencer à faire de l'argent avec, ouvrir une école, avoir un bel appartement, bien vivre. Et puis la guerre arrive balaye tout. Les Juifs sont... c'est la Shoah. Hein. Donc, dans sa famille, elle a ses deux fils. Il y en a un qui va partir. Alors, c'est super intéressant parce que dans ses deux fils, il y en a un qui... On comprend qu'il travaille un peu pour les renseignements, pour les services secrets. Une de leurs amies travaille aussi pour les services secrets. Il y en a donc, il part à l'étranger, il se retrouve pendant le samedi sanglant au Japon contre la Chine. Enfin voilà, donc on est sur tous les prémices de la guerre. Et à travers les yeux d'Alice, qui elle au départ était partie pour avoir une vie finalement très belle et très très, très bien tracée, leur famille qui va se trouver complètement éclatée aux quatre coins du monde, et les enfants qui vont être balayés par la guerre, et puis toute cette famille avec les oncles, les tantes, les sœurs, où les Juifs sont traqués, et ils essayent tous de quitter. Alors on n'est pas en Allemagne, mais on est en Autriche. Et donc ils vont, au fur et à mesure, on sent l'oppression et ils se disent faut quitter le pays. Donc il y en a qui partent aux États-Unis. Elle arrive du coup avec les laissés-passer à partir en Angleterre. Alors elle se retrouve être obligée de lâcher son école, tout ce qu'elle aura construit, pour aller vivre en Angleterre, se retrouver cuisinière dans des riches familles. Alors ça se passe plus ou moins bien, plutôt mal que bien d'ailleurs. Elle va y vivre pendant 20 ans et on va suivre un peu toute cette histoire où elle va essayer de rejoindre ses enfants et rejoindre les États-Unis pour essayer de ressouder leur famille. Il y en a un qui part en centre de concentration à Dachau, mais enfin ils arrivent tous à la fin à survivre quand même, enfin sauf les sœurs, mais sinon ils survivent. Et le livre commence et finit par le moment où elle rentre en Autriche et où elle découvre que les livres de cuisine qu'elle a écrits sont signés par un homme qui... Alors, je me rappelle plus
je
son
l'ai,
nom.
Si tu veux, c'est Rudolf Rösch.
Voilà. Et on ne sait pas trop si c'est un homme qui a vraiment existé ou si c'est l'éditeur qui a mis un nom qui a mis un nom d'emprunt à ce livre pour le rendre, du coup, vendable. C'est ce qu'on appelle l'arianisation des biens culturels. Et donc, on ne sait pas trop s'il a vraiment existé ou pas. Alors, a priori, l'auteur a enquêté et il aurait quand même existé. Il aurait quand même été cuisinier, effectivement, mais bon, sans grande conviction. Et elle va essayer de se battre pendant toute sa vie pour essayer de retrouver les droits d'auteur de ce livre, ce qui va lui être refusé, et sa mémoire va être réhabilitée 40 ans après sa mort. Mais il y a quand même un combat. Et ce qui est super intéressant dans ce livre, donc c'est très bien écrit, c'est pas du tout dans le pathos, hein, on n'est pas du tout dans le... on a des photos.
Hein,
on c'est a pas trop photos. Écrit comme... vu qu'elle est historienne à l'université de Cambridge, c'est une grande professeure d'université, ça ressemble pas trop à un livre d'universitaire.
Pas du tout, et on enquête avec elle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a des postulats, elle dit, ça ne pouvait que se passer comme ça. Dans le camp, il a dû se passer ça. Et elle a... Enfin, vraiment, je pense c'est extrêmement fouillé. On peut que croire à ce qu'elle raconte. Et non, c'est un chouette livre que j'aurais pas lu si on n'avait pas été sur le sujet de cette émission, mais que je regrette pas d'avoir lu, que je conseille pour les personnes qui aiment les livres historiques, parce que c'est très intéressant, et surtout le fait, alors elle parle d'un autre livre pareil du même éditeur, donc on était sur un livre de physique chimie pareil qui a été on a enlevé le nom du juif et on a mis le nom d'un bon arien pour pouvoir vendre le livre les éditeurs qui ont fait de l'argent pendant des années et des années dessus et qui ont refusé de rendre les droits après en disant mais nous on n'avait pas le choix et pourtant après enquête il y avait le choix
C'est grâce à la parution de ce livre que la maison d'édition qui existait toujours du livre c'est
original
Zokortman in Wien comment on cuisine à Vienne a reconnu son erreur et je crois qu'a rendu alors je sais pas comment ce que ça veut dire mais a rendu les droits à titre posthume
mais 40 ans après quoi voilà. Pendant 40 ans alors c'est bien parce qu'on voit les lettres qu'elle a écrites à l'éditeur. Elles y sont même pas à la fin, pendant le livre, à chaque fois, on la voit et on voit les lettres. Alors, elle avait d'ailleurs une écriture, peut-être qu'il n'a pas réussi à la relire parce que franchement, elle avait une écriture de docteur.
C'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas rendue.
Ça doit être pour ça. Mais c'est intéressant et on est aussi dans les. Voilà, on a ces trucs avec la CIA, les enquêtes, avec un des fils qui se marie avec une actrice qui est très célèbre. Donc, il y a plein de raccords avec l'histoire qui sont vérifiables. À chaque fois, moi, j'allais chercher, je dis, ah bon, il y a eu ça. Et j'allais chercher.
Et tout était très factuel.
Donc c'est assez intéressant.
Ça donne un chemin.
Ceux qui aiment les romans et les livres d'histoire, ça peut être juste.
Et c'est un peu mélangé. C'est un roman historique. Ça aurait pu être un documentaire historique. C'est vraiment à cheval entre les deux.
Il n'y a aucune de ces recettes, par contre. La sœur Torte, on n'aura toujours pas le secret.
Non, désolé. On
va aller chercher ailleurs.
À Vienne. Après, le livre a été réédité à peu près 25 fois. Donc, je pense que si tu vas à Vienne, tu retrouveras du comment on cuisine à Vienne.
Ouais, mais je ne parle pas viennois.
Merci beaucoup, Elodie.
Tu peux pas être parfaite.
Valérie, Pauline.
Moi, je voulais faire une transition après Marlène, mais tu n'as pas vu mon appel.
Alors, on fait comme si on était après Marlène.
Fais ta dernière phrase.
C'était laquelle? Il est génial.
Non, tu disais qu'il était un peu maléfique.
L'enceinte.
Tu disais pas que ce livre, c'est un peu maléfique, qu'il était un peu possédé, ce livre.
Ah ouais,
choses comme ça.
Si tu veux, oui.
Alors, personne n'a écouté ta chronique. Il n'y a personne qui relève, là.
C'est ça.
Oh, la phrase finale, quand même, t'es exigeante.
Je crois que Thomas est tombé sur une bonne critique de
Thomas.
Livre.
Ouais, alors,
Qu'est-ce que tu penses du livre que tu n'as pas lu, du coup?
Moi, j'ai trouvé que le livre était si passionnant que mon marque-page se déplaçait tout seul, mais vers la droite, pour vite que ça soit terminé.
Bon, non, c'est pas la dernière phrase que j'ai dit.
Non, c'est en fait, je faisais des grands gestes pour faire une transition, Marlène, donc à liser des livres qui étaient les maîtres du jeu, en fait. Ouais. Des livres qui possédaient son lecteur, en disant, bim, sans cette
tu
fleur,
te
je te pince le nez, tu te sens manipulé. Moi, le livre dont je vais vous parler, Tuer les gens. Quand on a choisi ce thème, je n'ai pensé qu'aux couvertures de livres en peau d'humain, j'ai pensé qu'à des choses horribles, noires, sombres. C'est pour ça que vous avez eu du bol que je vous parle de Tourneglace juste avant. Et un qui m'est revenu en tête, alors je suis désolée pour ceux qui ont écouté par le bout de la lorgnette sur le premier semestre, je pense que j'en avais parlé, mais tant pis, vous y avez droit une deuxième fois en 10 ans, bam.
Bim,
parce qu'il m'est arrivé de parler plusieurs fois de Gardien de ma vie, de Joël Batz, je sais dans cette émission, peu souvent,
sans Ludo,
mais allez, même si Ludo n'est pas là, j'en parle. Non, là, c'est le livre qui s'appelle « Le livre sans nom », puisque c'est un livre qui tue les gens et qui n'a pas de nom.
Ah mais non, t'en as parlé aussi sur le livre sur le zinc.
C'est vrai. Presque tu radotes, je crois que tu radotes.
Ah ouais, c'est trop, c'est pas la maison des feuilles, parce que j'ai hésité de vous refaire la maison des feuilles.
Non, c'est sûr. Le livre sans nom, c'est sûr, on l'a fait en livre. Ah oui. Et je crois que c'est même Ludo qui l'avait présenté.
C'est pas possible, Ludo il lit pas de
si,
livre.
Si, si. Avec toi, vous étiez à deux voix.
C'est possible,
vous
on ne lit pas de livre avec Ludo, on se sert que de Wikipédia.
Si.
Tu lis trois pages et on voit ton marque-page.
Oui, c'est ça, c'est pas un marque-page, parce que mon marque-page, il n'essaye pas de mettre fin à ses jours. C'est la couverture du livre qui est pliée.
Ouais,
Non, c'est vraiment bien, l'énigme de Tarmiglas. Mais ça, c'est encore mieux. Anonyme, alors je suis désolée pour les auditeurs qui auraient écouté la soi-disant émission où Ludovic en aurait parlé. mais c'est totalement dans le sujet. Ce livre, c'est un livre maudit. Et ce livre, il est maudit, si bien qu'en fait, il est un peu caché. Il est planqué dans une ville qui s'appelle Santa Mondega. Ça te parle, Marlène ?
Oui, complètement. Oui. Oh,
non, non. Alors, je me continue. Sens mutante. Ça veut dire que je vous écoute pas
je
quand
vous parlez.
Je ne
regarde pas si tu veux.
Oui, je vais regarder Pauline, elle est sympa.
Oui, moi, j'ai pas de mémoire. Vas-y.
Ah, voilà. C'était ma préférée, Doris.
C'est le poisson rouge de l'émission.
Donc, en fait, on a affaire à un livre qui est plein de pouvoirs de malédiction. C'est un manuscrit qui est très vieux. Enfin, dans le livre, quand on lit le livre sans nom, on sait que ce manuscrit existe et qu'il est vraiment là, qu'il ne faut absolument pas le lire. Il est sombre, il est caché, c'est un vieux grimoire, c'est épais, il sent, il est... Et pourtant, en fait, il y a quand même des personnes qui veulent le lire parce que de le lire, ça fait sortir des démons et ça peut donner une sorte de pouvoir. Pour une fois que j'ai écrit des notes, je n'ai que la première page, donc je vais improviser la suite. J'ai pas de recto verso, je m'en rends compte. Mais c'est pas grave. Et donc, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il est. Et par contre, on va traquer les gens qui potentiellement pourraient vouloir le dérober à des fins un peu malhonnêtes. Et on a pour ça une sorte de justicier qui s'appelle Bourbon Kid. Alors Bourbon, c'est un lien parce que ce justicier, cette personne qui va essayer de trouver les gens qui vont lire le livre, et s'ils l'ont lu, donc les tuer, aime beaucoup le Bourbon et quitte parce que il n'est pas très grand. Et donc c'est un exécuteur en fait de beaucoup de personnes qui vont tenter de lire ce livre. Et même si ce livre, donc, on pourrait penser qu'il n'existe pas quand les gens le lisent systématiquement, Bourbon Kid est au courant et les personnes meurent. Bourbon Kid ne se fait jamais arrêter. Et en fait, dans ce livre, il y a des rituels, il y a des incantations, il y a des rites. Et quiconque le lira verra sa mort arriver. On a des créatures qui sont absolument maléfiques, surnaturelles, qui arrivent. Et pourtant, ce livre, dans Santa Mondega, il circule, il se promène, il est là, tout le monde le veut. Parce que les gens sont avides, en fait, de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Et ça fait une espèce d'objet culte dont tout le monde veut s'emparer. C'est absolument hypnotisant et ça fait presque vrai. En fait, c'est du Tarantino, mais en lecture. Voilà.
Wow.
Ce que j'avais à en dire. Mais comme je n'avais plus le livre sans nom, certainement Ludo n'a pas dû me le rendre depuis la dernière émission.
Tu n'as pas rendu la deuxième page.
Je cherchais, mais je crois que ça a fait moins peur.
Ah ouais, ça pourrait, ouais. Comme si on a fait, j'étais pas là, moi j'avais piscine ce jour-là. J'ai eu trop peur.
Ça fait longtemps.
Ça a presque une transition, fait moins peur pour ce qu'on fera à la fin de l'émission.
Exactement.
J'ai dit trop tôt.
Non, c'est très bien. Non, voilà, donc c'était le livre sans nom, en fait, qui est vraiment le fil rouge de tout ce roman. Anonyme.
Et oui.
Ah non, mais pour de vrai.
Ah non,
oui,
il n'y a pas d'auteur. Non, il est mort, puisqu'il l'a lu. Donc il a eu le temps d'écrire. Il a eu le temps d'écrire ce qui se passait dessus, puis il est mort.
Mais donc, qui touche les droits d'auteur de ce livre ?
Personne.
C'est fou.
Les libraires touchent 30%, c'est tout. Mais non,
tu en vends beaucoup ?
Eh bien, pas assez. C'était parti vous masser pour l'acheter. Non, il est un livre de poche. Mais c'est là où c'est génial. C'est que c'est une deuxième énigme. C'est l'énigme dans l'énigme. Mmh. C'est comme l'abîme dans l'abîme.
Ah, c'est mieux que le mystère de la chouette d'or,
Mais oui, c'est encore le mystère de la chouette d'or. D'ailleurs, pour tous ceux qui avaient aimé le mystère de la chouette d'or, il y avait la mâchoire de Caïn, où on découpait le livre, on devait retrouver en mélangeant les pages qui était le tueur, et il vient d'avoir, je ne sais plus, quelque chose de Salomon, je l'ai, mais où il faut découper les livres et remettre les 100 pages.
Ça aussi, tu en as déjà parlé.
Oui, mais j'avais parlé de la mâchoire de Caïn, parce que là, le livre, c'est le nouveau qui vient de sortir, mais il faut découper les livres. C'est le plus dur.
Par contre, c'est la mémoire de l'émission.
Découper les livres, vous y arrivez ?
Non.
Ah non, qui peuvent découvrir ? Non,
j'ai fait ça toute la journée pour faire des décos de Noël.
Ah non, c'est pas possible.
C'est avec du désherbage.
Exactement.
Oui, mais même.
Ça fait mal.
Pauline,
voilà, donc, c'était génial.
À toi, tu vas nous parler du dictionnaire à l'envers de Oliver Jeffers.
Ouais, vous adorez déjà Oliver Jeffers ou... parce que moi, je l'adore. Je suis désolée, mon amour. Je suis amoureuse de Oliver Jeffers, de tout ce qu'il fait.
Moi, j'ai regardé sur Google Images, il est sacrément beau gosse.
Et en plus, oui, tout est. Oui, oui.
Il a tout pour lui.
Il a tout pour lui, le look, le talent, le. Il est drôle, il est fin, il est D'avance, je l'adorais, ce livre, et j'avais raison.
Est-ce que tu pourrais l'inviter à une émission, un livre sur le zinc ?
On pourrait l'inviter, oui, s'il veut venir, on l'accueille avec plaisir.
Mais ouais,
il habite pas tout près, je crois, par contre.
Il le dit, d'accord. Après un Google Images, je suis d'accord pour qu'on l'invite.
Attention, parce que méfie-toi des images. Hein.
Non, ne te méfie pas des images. Non. Et confiance en Oliver. Moi, on dirait pas quand on parle comme ça, mais je vais parler d'un livre jeunesse quand même.
Oui.
Je tiens à le préciser, qui s'appelle Le Dictionnaire à l'envers. Donc là, pour le coup, ça parle vraiment de livres et ça parle d'un livre que plus personne ou très peu de gens ouvre aujourd'hui, en tout cas très peu de jeunes, très peu d'enfants. Et je vous assure que si vous lisez ce livre à votre enfant, il va vous dire oh, « T'as un dictionnaire, maman? T'as un dictionnaire, papa ?» Ouais. Et j'espère que vous en avez un chez vous. Hein, parce qu'il va avoir envie de le lire. Alors, votre dictionnaire sera certainement moins fun que celui d'Oliver Jeffers, qui n'a pas fait ce livre tout seul pour une fois. Il l'a fait avec Sam Winston. Mais
Alors, il fait beaucoup de choses avec Sam Winston, je trouve. Qui est Sam Winston?
C'est son double maléfique.
Je ne sais pas. L'enfant des livres, qui est une petite histoire d'un enfant qui vit au milieu des livres, qui est du même auteur.
C'est aussi. D'accord.
Et je crois que Coincé est illustré aussi.
Il fait pas mal de choses. Il va falloir enquêter. Oliver Jeffers. Mais voilà.
Mais Sam, on ne l'invite pas, on a dit. On invite Colibri.
Attends, je vais le chercher sur Google.
On va voir si on l'invite.
Donc, notre dictionnaire aussi, à l'envers.
Le dictionnaire, il est rigolo. Je prends une. J'avais mis un marque-page.
Entends,
je
vais lire au hasard.
Je lis au hasard. Allez, je vais lire. Thé, boisson obtenue en versant de l'eau très chaude sur les feuilles séchées. Bonne raison de faire une pause et de s'asseoir un moment. Et de s'étendre sur un fauteuil.
Très bien.
Voilà. En fait, je pense que j'avais gardé la page pour slip, parce que je pense que c'est une qui fait beaucoup rire les enfants.
Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est un slip. Ouais.
Ça fait rire les enfants, je précise. Vêtement qui va du haut des cuisses jusqu'à la taille. Certaines personnes choisissent de porter les slips sur leur tête, mais c'est rarement très convaincant. Voilà. Donc voilà. Ce que je vous lis, ce n'est pas le livre en lui-même. C'est des morceaux de dictionnaire, entre guillemets, que vous ne voyez pas, que je fais avec mes doigts, qui ont été découpés pour faire les illustrations, parce que l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un dictionnaire qu'on a un peu marre, parce qu'il voit que tous les autres livres racontent des histoires, et lui, il raconte rien, alors qu'il a tous les mots en lui. Donc, il se dit, je vais raconter une histoire. Et donc, ça va être l'histoire de l'alligator, qui sent la bonne odeur d'un donut, et qui va traverser tout le dictionnaire, comme ça, et qui va rencontrer tout un tas de personnages. Et en fait, ça va mettre le bordel total dans le dictionnaire, qui aime tellement l'alphabet qu'à un moment il va péter les plombs, la reine va glisser sur un savon qui va envoyer la gomme au début du dictionnaire, tout va se mélanger, ça va le rendre complètement fou le dictionnaire, il va dire stop et il va chanter la chanson de l'alphabet pour remettre tout dans l'ordre. C'est hyper fun à lire, c'est vraiment très chouette. Donc il y a le texte de l'histoire et puis il y a tous ces bouts de dictionnaire donc Oliver Jeffers a découpé, a écrit avec Monsieur Winston et découpé pour faire les illustrations. Donc, en plus de lire l'histoire de l'alligator rigolo qui va arriver tout un tas de petites aventures, on peut lire tous les petits articles de dictionnaire ont été réécrits pour. Donc tu peux prendre n'importe quelle page, lire un bout. Enfin, c'est hyper
c'est
très drôle.
Très beau, la page que tu as ouverte est absolument magnifique.
Tout est magnifique. Là. Comment utiliser ce dictionnaire? Avertissement, ne doit pas être lu sous l'eau, mais peut tout à fait être lu sous la couette.
Oh, trop bien.
Il y a des détails partout, c'est génialissime. Voilà.
On a tous envie de le lire
et puis de se dire oh mais tiens ça j'avais pas vu. Oh regarde il y a un petit truc dans un coin. Regarde on l'avait
tu
pas encore
jamais,
lu.
Jamais ça quand non. tu le lis avec les
non et c'est
en fait,
trop
ils
drôle.
Ont 20 ans ils partent pas de la maison parce que t'as pas fini.
Et ben ouais, puis ils disent ah mais regarde ça maman on l'a pas lu ce truc là qu'est-ce qu'il y a écrit
le Tanguy a écrit à l'envers.
Ah ouais non mais c'est génial. Bon Oliver Jeffers déjà c'est assez génial mais prendre le risque d'écrire un bouquin sur le dictionnaire et réussir à le rendre génial. Ouais. C'est fabuleux. Les illustrations sont toutes simples, mais elles sont mignonnettes comme tout. C'est extra.
Voilà. S'il arrive à donner envie à vos enfants d'ouvrir un dictionnaire, c'est qu'il aura réussi sa mission et ça serait une belle prouesse. Oliver Jeffers, qui est nord-irlandais, né en Australie, et c'est un illustrateur. Il a illustré notamment une pochette d'un single de U2.
Oh non, non, c'est pour ça qu'il est
un single. Voilà. si vous allez sur Spotify, Deezer, toute autre appli, et vous écoutez Ordinary Love, sorti en 2013, c'est une peinture de Mandela, et bah c'est lui qui a fait la pochette.
D'accord.
Okay. Voilà. J'aime bien ce petit
Pour la petite info.
Bon, bah oui, puis enfin Oliver Jeffers. Allez-y les yeux fermés, hein, n'importe quel titre, c'est toujours doux, mignon, joli, rigolo, c'est génial.
Qui a encore des livres à présenter ? Tiens, Élodie, je sais que toi aussi, tu as une
livre. Il m'en reste un, ouais.
Elle n'a même pas le bouquin. Non, parce que
alors, je ne l'ai pas pour une très bonne raison.
C'est un mec qui débute.
En bibliothèque. Voilà. Je le présente, du coup.
Un jeune auteur qui débute.
C'est un primo-romancier.
Alors non, j'ai voulu réhabiliter Marc Lévy, parce que la dernière fois, on avait quand même une émission sur Marc Lévy. On n'a pas parlé de lui.
On n'a jamais fait un...
Si, les livres qui marquent Lévy.
Oui, non, mais je suis contre ce jeu de mots.
Voilà. Donc sur le jeu de mots, on l'avait complètement oublié, volontairement, j'avoue. Et donc du coup, je suis tombée sur ce livre au moment de l'exemplariser et je me suis dit, bah, allons-y, on est sur la thématique. Et ce livre parle de... c'est la rentrée littéraire. Hein, la
librairie mais alors, des livres interdits. Il n'est pas sorti pour la rentrée littéraire.
Non, mais il n'est pas si vieux que ça. Et donc je me suis dit, bah, tiens, parlons-en. Et donc on se... alors... Je ne sais pas ce que je vais dire sur ce livre.
Attends. Si. Ah oui, prends un dé.
Je vais prendre un dé. Ouais,
alors moi, j'ai joué.
Alors. Non, alors, donc, ce livre parle d'un libraire, donc, qui s'appelle Mitch, et qui sort de prison pour avoir passé 5 ans en prison. Il a été emprisonné parce que, donc, on est sur une sorte de roman un peu dystopique, qui se voudrait un peu dystopique. Et il a été emprisonné parce qu'il avait ouvert une sorte de librairie interdite avec les livres qui sont interdits. Donc ça, c'est un livre qui a le mérite de parler de nous mettre dans une société où la censure et des livres est un peu extrême. Alors on ne sait pas trop dans quel monde Marc Lévy nous emmène. On sait que du coup il y a certains livres qui sont interdits, sensiblement les mêmes qui seraient interdits aujourd'hui aux États-Unis, hein, si on fait la liste, La Servante Écarlate, Le Journal d'Anne Frank, Fahrenheit 451, La Couleur Pourpre des Souris des Hommes, je sais pas moi, Les Hauts du Levant.
Il nomme les livres.
Alors surtout il les nomme en tant que libraire au début quand il raconte son histoire et qu'il raconte pourquoi est-ce qu'il a été il a fini en prison. Et surtout, tout à la fin de l'ouvrage, il y a la liste de tous les livres qui sont effectivement interdits et bannis des bibliothèques et des écoles par les États américains depuis, on va dire, 2020 à peu près. Où on a vraiment vraiment une vraie censure qui a été... où on sait que tous les livres qui parlent soit de racisme, d'esclavage, de sexe, de genre, juste des histoires un peu autochtones, sont forcément mises de côté. Et donc, du coup, ce Mitch, il va ouvrir sa librairie, il va arriver dans une... C'est un trentenaire et il va ouvrir sa librairie et la personne qui va lui vendre le local va lui expliquer qu'il y a une cave et qu'à... Avant, c'était une sorte de tripot et que le mur, enfin, ça a été muré. Bien sûr, le premier truc qu'il fait en cachette, ça va être de péter le mur et de se rendre compte qu'en fait, c'est une immense salle. Et il va, décider de mettre tous les livres qui sont interdits par le gouvernement dans cette sorte de cave. Et il va y avoir une sorte de club littéraire qui va se réunir régulièrement. Le pitch est
sympa.
Pas mal. Oui, alors il y aurait, alors il y a une histoire d'amour qui se greffe un peu là-dessus, qui est un petit peu bancale. mais sinon, le pitch est pas mal. L'idée est pas mal. Ce club littéraire, forcément, il prend de l'ampleur avec des étudiants. Et donc, forcément, il se fait gauler. Et il finit en prison pendant quelques années. Et il va revenir et essayer de réouvrir sa librairie. ça a le mérite quand même d'évoquer la thématique de la censure, du pouvoir des livres. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah non, mais pour une fois, mettons pas de côté ce genre d'ouvrage. Voilà. Donc je me suis dit, parlons-en.
Mais tu as bien fait, moi je pense. Ah. Tu vois, Marc Lévy, là, tu as rigolé hein, sans faire un pied de nez, mais moi j'ai adoré un livre qui parlait que de Marc Lévy. Hein.
Lequel ?
Alors, c'est un livre qui a eu le prix de Flore l'année dernière.
Ça sent le...
Qu'est-ce qu'elle va nous sortir ?
Mais c'est génial parce que...
En direct.
J'ai eu de l'empathie pour Marc Lévy l'année dernière. Un jeune auteur qui s'appelle Benjamin Stock, a eu le prix de Flore. Donc, prix un peu controversé parce que son président s'appelle Beck Bédé. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il a écrit l'histoire d'un homme qui est un gros lecteur et qui, un jour, en discutant avec condescendance avec sa collègue de travail, découvre qu'elle est fan de Marc Lévy. Mais alors, fan de Marc Lévy, qu'elle a tout lu, elle a tout décortiqué.
Il y en a, hein, 50 millions de lecteurs, à un moment donné, il y en a forcément des fans.
C'est pour ça qu'il, ben justement, là, il les réhabilite un peu. Parce que lui, du coup, il lui dit, oh, excuse-moi, je ne rentre pas dans ton club parce que moi... Je suis un lecteur. Et finalement, il commence à s'intéresser à Marc Lévy et il en devient totalement fan jusqu'au point de rentrer dans un club des lecteurs de Marc Lévy. Et ils enquêtent, en fait, ils cherchent à comprendre tous les messages subliminaux qui sont cachés dans le livre de Marc Lévy, mais jusqu'à la folie. Si bien que le livre, le titre, c'est « Marc ».
Ah, carrément, quoi. Ah, je suis passée à côté.
T'es passée à côté. Donc là, c'est la strate en dessous.
Je suis même pas sûre qu'on l'ait.
C'est la strate en dessous. Il a le prix de Flore, quand
même. Non, mais je suis même pas sûre qu'on l'ait.
Bah, c'est une mise en abîme.
Ça me dit rien, mais je crois qu'on va en faire l'acquisition, parce que ça m'intrigue.
C'est dommage. Moi, j'ai pas le marché des livres, mais il m'en reste un, je crois. C'est pour dire, quelque part, sur le moment, je me suis dit, il se moque. Enfin, c'est pas qu'il se moquait, mais ça... Ça permet aussi de se dire, attention, quand même, s'il y a tant de personnes qui le lisent...
Non, voilà. Mais bien sûr, ça répond à un vrai lectorat. Bien le sûr. Rythme, en plus, il n'est pas du tout désagréable. Hein. Enfin, franchement, le rythme, il est fluide. Les personnages sont un peu attachants. On a envie de savoir. Et il se passe des choses dans cette librairie. Hein. Il y a des livres qui bougent. Il dit qui c'est qui est venu dans la librairie. Enfin, il se passe des choses quand même. Et, non, mais voilà, c'est pas un feel-good classique. Il est pas mal. Non, franchement, ouais, bonne critique. J'ai envie de lancer un dé, quoi.
Lance un dé.
Et après, on termine là-dessus.
Allez, on y va.
Ah, et tu t'as encore des livres. Oui, non, mais oui.
Alors attention, je vous lis ce qui est écrit sur le dé. Une plume si agréable que même les virgules semblent polies. Le genre de texte où l'on relit une phrase juste pour le plaisir. Bon, j'irai pas jusque là, mais non, mais c'était pas mal. Quand même.
Ça, c'est plus la maison vide qu'un autre prix Goncourt.
Non, mais il était pas mal pour de vrai. Mais
effectivement, tu viens de parler de la librairie des livres interdits qui parle de censure. Et moi aussi, je vais vous censurer. Je suis désolé, mes chères expertes, mais il faut qu'on s'arrête à là. C'est déjà la fin de l'émission. Avant une petite surprise, Valérie, on va réaliser un petit tirage au sort.
Alors, ça va être génial. En fait, le mois dernier, pour les 15 derniers jours d'Halloween, on avait proposé aux lecteurs de venir à la livrerie déposer un bulletin sous l'œil maléfique de Cthulhu pour dire quel était le livre qui leur avait fait le plus peur au monde. Et il est grand temps de faire le tirage au sort pour savoir, au hasard, Balthazar, qui a remporté le petit cadeau pour savoir qui...
J'ai pas voté, j'aurais trop aimé. Moi,
mais t'aurais dû remplir. Par contre, ce qu'on avait décidé avec Ludovic Terrol, de façon très, très, très unanime, sans faire part à la démocratie, c'est que nous lirions pour le prochain groupe de lecture les livres que les lecteurs de la livrerie ont inscrits sur les papiers.
Ouais.
Et je les distribuerai de façon totalement aléatoire.
Ouais, ouais.
Donc, je laisse Pauline, qui est la main innocente, choisir qui est le gagnant.
Innocente.
Oui, à d'autres.
Et le gagnant est Laurent Boudot, qui a lu Misery.
Ah, ouais.
Ah, mais c'est marrant parce que moi, j'aurais cité un livre de Stephen King aussi.
C'est ça.
Je pense que beaucoup de gens auraient lu
Stephen King. Moi, c'était Marche ou Crève. Ah, mais Marche ou Crève m'a...
Et donc, du coup, on va devoir lire tous les livres. Allez, alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des classiques dedans, parce que j'avais déjà lu un peu les noms. Donc, il y a Démons et Merveilles de Lovecraft, qu'a lu Yves, qui l'a fait terrifier.
C'est pour moi ou je fais passer?
C'est toi qui décides.
On peut pas tirer au sort là.
Ah, vous voulez tirer au sort?
Je laisse piocher. Ouais.
On a le cochon de Noël de J.K. Rowling. Mais Alice avait 8 ans et ça lui a fait peur parce que son cochon, il ne le retrouvera pas. Ah oui, mais tout le monde a joué.
Oui, chacun son.
Il y a Hildegard qui a dit le donjon de Paul Wilson. Parce qu'à l'intérieur du donjon, la nuit, les soldats sont tués les uns après les autres par une force invisible et obscure. Très oppressant, très angoissant. On ne sait jamais ni quand ni comment l'entité attaque.
Ah, tu vas nous spoiler si on veut le lire.
Ouais. Bon, je vais dire, Clarisse, elle a eu très peur parce qu'elle était jeune des cornes bidouilles. Mais c'est normal, elle avait 4 ans et aussi de barbe bleue.
Cornes bidouilles.
Fabien, Fabien, il a bon goût. Il a eu peur de Cthulhu. Mais en même temps, c'était, Cthulhu servait de cadre pour écrire qui avait eu peur. Thomas, lui, il a peur de Monsieur Mercedes, de Stephen King.
Ah ouais.
Clémence, à 10 ans, elle, ce qui lui a fait peur, c'est les deux sorcières de Roald Dahl. Benjamin, lui, c'est toute la collection chair de poule. Pourtant, Benjamin, aujourd'hui, tu as 37 ans. Il va falloir commencer à penser. Je me permets parce que Benjamin nous écoute. Hélène, elle a eu peur de la route, en fait. Ce qui l'a empêchée de dormir, c'est la route.
Ah oui, la route, oui, voilà. Je suis d'accord.
Patricia, oui. Patricia, qui peut être de la famille avec Clarisse, elle, c'est ça qui lui a fait peur de Stephen King.
Je suis d'accord.
Voilà. Claire, elle, par contre, il faut le lire in English, please, because it's Frankenstein de Mary Shelley, the creator of the monster itself. Ah. Voilà, blablabla.
Sarah le lire.
Il y a Fabien aussi qui a voté pour La Route. Voilà, donc il y en a deux, La Route, donc il faut que deux personnes le lisent. Anne, elle a marqué L'horreur sous le lavabo.
Ah, connais pas.
Voilà. Il y a Anneline aussi, il n'y avait plus de papier, donc elle a fait quand même une lettre sur papier blanc parce qu'elle avait très envie de dire que le livre, qui lui avait fait une, pas une peur bleue, mais qui avait compacté ses émotions de façon étrange et insidieuse, c'était la trilogie 1Q84, Murakami.
Ah, je l'ai jamais lu,
c'est très très chouette. Et aussi, enfin, pour terminer, il y avait Catherine, et alors là, c'était surprenant parce que c'est Là où tombent les étoiles. Et Là où tombent les étoiles, c'est le dernier roman de Cédric Sapin-Dufour qui avait écrit Son odeur après la pluie, où il raconte l'histoire de sa femme, une histoire vraie. En fait, sa femme a eu un gros accident de... Alors, je ne sais plus si c'était du parapente, parachute. Je ne suis pas très forte dans les disciplines aériennes avec des voiles. Et en fait, il raconte ben, comment elle a failli mourir et comment, petit à petit, ils se sont relevés ensemble. Surprenant comme réponse, mais voilà. Donc, pour la prochaine fois.
Tout, et mes prénoms, et hop, c'est
parti. Merci beaucoup. Vous allez piocher au hasard Balthazar.
On fera ça à la fin de l'émission en off, mais merci, ça donne plein d'idées de lecture à nos auditeurs, auditrices. On est deux semaines après Halloween, et puis voilà. Mais moi, j'ai encore jamais lu de Stephen King, donc je pense j'irai lire tout ça. Merci à vous quatre d'être venus. Merci auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'Un livre sur le zinc est une émission en collaboration avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie.
Mais change de nom sinon.
Non mais c'est trop compliqué, c'est trop proche.
Dis là où qu'on peut acheter des livres.
C'est ça, là où on peut acheter des livres. Vous pouvez réécouter cette émission comme tous les autres en podcast sur notre site internet 48fm.org. Et comme dirait l'autre,
au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.